Chapitre 2. S'il n'oubliait pas l'avertissement d'Amaril, Seldon n'y songeait pas outre mesure. Son 40e anniversaire arriva, accompagné du choc psychologique habituel. 40 ans. Il avait cessé d'être jeune. La vie ne s'étirait plus devant lui, tel un vaste terrain non cartographié dont l'horizon se perd dans le lointain. Il avait vécu 8 années sur Trentor, et ce temps était passé bien vite. 8 ans encore, et il approcherait la 50aine. La vieillesse le guettait. Et il n'avait même pas encore mis au point les fondations de la psychohistoire. Yogo Amaril parlait de ses lois avec emphase et calculait ses équations à partir d'hypothèses hardies, fondées sur l'intuition. Mais comment mettre à l'épreuve de telles hypothèses? La psychohistoire n'était pas encore une science expérimentale. L'étude complète de la psychohistoire exigerait des expériences engageant la population de planètes entières sur des siècles entiers et dans une absence totale de responsabilité éthique. Cela posait un problème insoluble. De plus, Seldon détestait devoir perdre son temps à des tâches administratives, aussi était-il d'humeur morose en rentrant chez lui à pied. D'ordinaire, il pouvait toujours compter sur une promenade à travers le campus pour retrouver le moral. Le dôme de l'université de Strilling était élevé, et le campus vous donnait l'impression d'être à l'air libre sans avoir à supporter un temps comme celui qu'il avait enduré lors de sa seule et unique visite au palais impérial. Au milieu des arbres, des allées, des pelouses, il se serait presque cru revenu dans son vieux collège sur Helicon, sa planète natale. L'illusion d'un ciel nuageux avait été prévue pour la journée, avec des apparitions épisodiques et aléatoires de la lumière du soleil. Pas le soleil, évidemment, juste la lumière. Et le temps était un rien frisqué. Il semblait à Seldon que les journées fraîches étaient un peu plus fréquentes qu'auparavant. Pratiquait-on sur Trentor les économies d'énergie? Était-ce la conséquence d'une inefficacité grandissante? Ou, et il grimaça mentalement à cette idée, se faisait-il vieux et s'anémiait-il? Il glissa les mains dans les poches de sa veste, arrondit les épaules. Ses pieds connaissaient à la perfection l'itinéraire entre ses bureaux et la salle informatique, entre celle-ci et son appartement et retour. En général, il parcourait le trajet la tête ailleurs, mais aujourd'hui, un son pénétra sa conscience, un son sans signification.
Joe. Joe. Joe! Joe!
Le bruit était plutôt sourd et lointain, mais il raviva un souvenir, l'avertissement d'Amaril. Le démagogue. Était-il ici, sur le campus? Sans qu'il ait pris de décision consciente, ses jambes pivotèrent pour lui faire gravir la pente légère menant à l'esplanade réservée aux exercices de gymnastique, aux activités sportives et aux discours estudiantins. Au milieu de l'esplanade, un groupe d'étudiants assez important s'était assemblé. Ils psalmodiaient avec enthousiasme. Juché sur une plateforme, il y avait un individu que Seldon ne reconnut pas, un individu doté d'une voix sonore au rythme incantatoire. Ce n'était pas ce fameux Joranum, toutefois. Seldon l'avait vu plusieurs fois à l'Holovision. Depuis l'avertissement d'Amaril, il s'y était intéressé de près. Joranum était imposant, et il souriait avec une espèce de camaraderie vicieuse. Il avait d'épais cheveux blonds filasses et les yeux bleu ciel. Cet orateur était petit, mince, la bouche large, brun et bruyant. Sans prêter attention à ses paroles, Seldon releva tout de même cette bribe de phrase.
« Le pouvoir d'un à la multitude !»
et le cri unanime qui y répondit. « Parfait, » songea Seldon. « Mais comment compte-t-il y parvenir? Est-il sérieux au moins ?» Il s'approcha du groupe et chercha du regard une tête connue. Il repéra Finangelos, un jeune étudiant en première année de mathématiques, pas un mauvais garçon, avec ses cheveux bruns bouclés.
« Finangelos !» lança-t-il.
« Professeur Seldon !»
répondit celui-ci après l'avoir fixé un moment, comme s'il était incapable de reconnaître Seldon sans un clavier au bout des doigts. Il s'approcha en trottinant.
Vous êtes venu écouter ce type ?
Je suis surtout venu découvrir l'origine de tout ce tapage. Qui est-ce ?
Il s'appelle Namarty, professeur. Il parle au nom de Jojo.
Ça, j'ai entendu, dit Seldon, remarquant de nouveau les cris qui ponctuaient chaque argument frappant de l'orateur. Mais qui est ce Namarty ? Le nom ne me dit rien. Dans quel département est-il ?
Il n'est pas inscrit à l'université, professeur. C'est un des hommes de Jojo.
S'il n'est pas inscrit à l'université, il n'a pas le droit de s'exprimer ici sans autorisation. En a-t-il une, à votre avis ?
Je ne saurais dire, professeur.
Eh bien, nous allons vérifier. Seldon s'apprêtait à fendre le groupe, mais Finangelos le prit par la manche.
« Ne prenez aucune initiative, professeur, il a ses sbires !»
Six jeunes hommes étaient en effet postés derrière l'orateur, jambes écartées, bras croisés, l'air renfrogné. « Des sbires ?»«
Pour ses basses œuvres, au cas où quelqu'un s'aviserait de faire le malin. »
« Alors il n'est certainement pas inscrit à l'université. Et même une autorisation ne couvrirait pas ceux que vous baptisez ses sbires. Finangelos, allez chercher les vigiles de l'université. » Ils devraient même être ici sans qu'on ait à les prévenir.
« Je suppose qu'ils ne veulent pas s'attirer d'ennui, » marmonna Finangelos. « Je vous en conjure, professeur, pas d'initiative. Si vous voulez que je prévienne les vigiles, je vais le faire. Mais vous, contentez-vous d'attendre leur arrivée. »«
Peut-être que je pourrai remettre de l'ordre dans tout ça avant qu'ils n'arrivent. » Déjà, ils cherchaient à se frayer un passage. Ce n'était pas bien difficile. Certains des auditeurs le reconnurent, les autres remarquèrent le badge professoral à son épaule. Il parvint à l'estrade, y posa les mains et se hissa avec un léger grognement. Il se dit avec chagrin que 10 ans plus tôt, il aurait franchi ses 90 centimètres avec une seule main et sans broncher. Il se redressa. L'orateur s'était tu et le considérait avec un œil méfiant et froid comme la glace. Très calme, Seldon demanda. Votre autorisation de vous adresser aux étudiants, monsieur.
Qui êtes-vous ?
Lança l'homme d'une voix forte qui portait loin.
Je suis membre du corps professoral de cette université,
répondit Seldon sur le même ton. Votre autorisation, monsieur.
Je vous dénie le droit de m'interroger sur ce point.
Les 6 jeunes, derrière l'orateur, s'étaient imperceptiblement rapprochés.
« Si vous n'en avez pas, je me vois contraint de vous demander de quitter sur le champ le domaine universitaire.
Et si je n'en fais rien ?»«
Eh bien, pour commencer, les vigiles de l'université sont prévenus. » Il se tourna vers la foule.
« Étudiants !»
lança-t-il.
« Le droit de réunion et de libre expression nous est reconnu sur ce campus. Mais il peut nous être enlevé si nous laissons des étrangers sans autorisation venir faire des... »
Une main s'abattit pesamment sur son épaule, et il grimaça. Il pivota pour faire face à l'un des hommes que Finangelos avait qualifié de sbire. Avec un fort accent dont Seldon ne put situer aussitôt l'origine, l'homme lui dit
« Barre-toi d'ici, et vite !»«
À quoi bon ?» rétorqua Seldon. « Les vigiles seront là d'une minute à l'autre. »«
Dans ce cas !»
intervint Namarty avec un sourire de fauve.
« Il y aura une émeute !» Ça ne nous fait pas peur.
Bien sûr que non. Cela vous plairait. Mais il n'y en aura pas. Vous allez tous vous en aller bien tranquillement. Il se retourna vers les étudiants et d'un mouvement se libéra de la main posée sur son épaule.
Nous y veillerons, n'est-ce pas ?
Il y eut un cri dans l'assistance.
C'est le professeur Seldon ! C'est un type bien, ne le tabassez pas !
Seldon sentit que l'auditoire était partagé. Certains auraient été ravis d'assister à une bagarre avec les vigiles de l'université, rien que par principe. D'un autre côté, ils savaient qu'un certain nombre l'appréciait personnellement, et que d'autres, enfin, sans le connaître, s'opposeraient à ce que la violence s'exerce contre un membre de la faculté. Une voix de femme résonna.
« Attention, professeur !»
Seldon soupira et considéra les 6 jeunes costauds en face de lui. Il ignorait s'il serait capable de les affronter, si ses réflexes demeuraient assez vifs, ses muscles assez robustes, même compte tenu de ses prouesses passées à l'esquive. Un sbire l'approchait, l'air arrogant. Pas trop vite, ce qui laissa à Seldon le laps de temps qu'exigeait son corps marqué par les ans.
Le sbire ouvrit les bras pour engager la confrontation. Seldon lui saisit le droit, pivota et se pencha, le bras levé, avant de se baisser en grognant. Pourquoi fallait-il qu'il grogne? Et l'homme vola dans les airs, propulsé en partie par sa propre inertie. Il atterrit avec un bruit sourd à l'autre extrémité de l'estrade, l'épaule droite démise. Un cri farouche jaillit de l'assemblée devant ce rebondissement totalement inattendu. Aussitôt, l'esprit de corps reprit le dessus.
« Donnez-leur une leçon, prof !»
s'écria une voix. D'autres reprirent le cri. Seldon se passa la main dans les cheveux, essayant de ne pas halter. Du bout du pied, il fit choir le sbire de l'estrade.
« D'autres candidats ?»
lança-t-il badin. « Ou bien allez-vous partir sans esclandre ?» Il se retourna vers Namarty et ses cinq hommes de main. Comme il s'était arrêté, indécis, il poursuivit. « Je vous préviens. L'assistance est désormais avec moi. Si vous essayez de me rudoyer, ils vous mettront en pièces. » « Bien. Alors à qui le tour ? Allons-y, un à la fois. » Il avait élevé la voix sur cette dernière phrase tout en leur faisant signe d'approcher du bout du doigt. Le groupe d'étudiants laissa échapper sa joie. Namarty campait sur ses positions. Seldon bondit sur lui et lui bloqua le cou d'une clé du bras. Les étudiants avaient maintenant envahi l'estrade au cri de « un à la fois, un à la fois !» pour venir s'interposer entre les gardes du corps et Seldon. Seldon accrut sa pression sur la trachée de son adversaire et lui glissa au creux de l'oreille. « Il y a une technique pour ça, Namarty, et je la connais. J'ai des années de pratique. Au moindre geste, à la moindre tentative pour vous échapper, je vous écrase le larynx et vous ne pourrez plus jamais parler plus haut qu'un murmure. Si vous tenez à votre voix, faites ce que je vous dis. Quand je vous aurai lâché, ordonnez à votre bande de brutes de déguerpir. » Dites quoi que ce soit d'autre et ce seront les derniers mots que vous prononcerez normalement. Et si jamais vous remettez les pieds sur ce campus, fini les politesses, je terminerai le boulot. »
Il relâcha momentanément sa pression.
Namarty lança d'une voix rauque.
« Vous tous, allez-vous-en !»
Ils battirent rapidement en retraite, emmenant avec eux leurs camarades éclopés.
Quand les vigiles de l'université arrivèrent quelques instants plus tard, Seldon leur dit « Désolé, messieurs. Fausse alerte. » Il quitta l'esplanade et reprit le chemin de son domicile, passablement chagriné. Il avait dévoilé une facette de sa personnalité qu'il aurait préféré garder cachée. Il était Harry Seldon, mathématicien, pas Harry Seldon, esquiveur sadique. En outre, songea-t-il lugubre, Dor s'en aura vent. En fait, mieux valait qu'il lui raconte lui-même l'incident avant que ne lui parvienne une version déformée de la réalité. Elle ne serait sûrement pas ravie.